assez impressionnant ce qu'on a fait. Puis pouvoir passer d'une feuille blanche à une usine fonctionnelle en 3 mois, c'est impressionnant à mon sens.
C'est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 202e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe G7 qui est derrière ce podcast produit également 2 autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de débuter l'année en force, venez discuter avec moi en direct sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. Avec du recul, on sait maintenant que la COVID-19 a impacté négativement des entreprises et en a aidé d'autres du même coup. Maintenant, imaginez être au cœur de cette pandémie et devoir totalement changer vos opérations sous une base quotidienne afin d'aider les Québécois dans cette tempête. Medicom, une organisation québécoise maintenant bien implantée à l'international, fut au premier plan afin d'aider l'ensemble de la province. Grâce à leurs opérations bien ficelées, l'organisation fut capable de produire et également de livrer une quantité de matériel gigantesque au gouvernement Legault. Leur vice-président finance et vente, Corey Penneau, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet épisode, mais également de la croissance de l'entreprise. Sans plus attendre, ma discussion avec Corey Penneau. Corey Penneau, vous êtes président principal de finance et opérations commerciales chez le groupe Medicom. Fondé en 1988, Medicom est un des plus grands fabricants et distributeurs mondiaux pour les produits de santé reliés au contrôle des infections. Votre entreprise est bien établie à l'international et possède des usines un peu partout dans le monde. Corey Penneau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Et Corey, avant de rentrer dans la conversation du jour, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à notre audience précisément les marques que Medicom possède et également les clients que vous desservez?
Oui, pas de problème. Notre marque dominante, c'est bien évidemment la marque Medicom, qui est représentée partout dans le monde. Ensuite, il y a des marques qui sont un peu plus spécifiques à certains marchés géographiques tels que RitMed et Ocean Pacific en Amérique du Nord et les marques Colmy et Open en Europe. Medicom est reconnu comme un manufacturier de pays international et nous avons une présence manufacturière en Amérique du Nord, Europe et en Asie. On est fiers de pouvoir fabriquer des masques N95 en Amérique du Nord ainsi que des masques chirurgicaux, des masques pour enfants et d'autres produits pour le monde médical et dentaire. En tant que manufacturier, nous vendons principalement à des distributeurs ou des agences gouvernementales dans 3 segments clés, le dentaire, le médical et le segment industriel. Généralement, les gens nous choisissent quand ils ont besoin de protection fiable.
Fantastique. Puis Corey, vous avez été clairement un joueur important pendant les dernières années. On va en parler un petit peu plus tard de votre présence, surtout de votre importance que vous avez eue pour le Québec et pour également le pays en entier. Mais avant d'en parler, j'aimerais parler un petit peu de toi. J'ai pu voir que toi, personnellement, tu as intégré l'organisation il y a 6 ans de ça maintenant. J'imagine, comme je viens de le mentionner, que l'entreprise était totalement différente avant la pandémie qu'après la pandémie. Est-ce que tu pourrais nous ramener un petit peu à 2017, donc il y a environ 6 ans de ça maintenant, et nous dire comment ton entrée s'est faite dans le groupe?
Oui, ben, je suis comptable professionnel agréé de formation, ou quand je l'ai faite, ça s'appelait CA, comptable agréé. Puis avant de me joindre à Medicom, j'avais œuvré un peu des 2 côtés du cartable, si on peut le dire, en service professionnel et en entreprise. Je reconnais la nécessité des services professionnels, mais pour moi, j'avais besoin de me sentir attaché à un projet. Donc, je cherchais des nouveaux défis en entreprise. J'ai rencontré Guillaume Laverdure, notre PDG. Puis, j'ai bien aimé que Medicom, c'est une société avec son siège social au Québec, avec une présence manufacturière sur 3 continents, avec de fortes ambitions de croissance. Puis, même avant la pandémie, on avait des bonnes ambitions de croissance. Puis finalement, ben, j'ai trouvé un bon mariage entre un bon challenge professionnel. Puis, je me suis entouré de gens que je respecte et j'admire. Donc, c'est un peu comme ça que je suis tombé sur Medicom.
Donc, t'avais envie de rejoindre une organisation très orientée autour d'un brand, d'un produit un petit peu plus que dans le service comme tu œuvrais d'avant. C'est ce que je comprends.
Exactement, quelque chose de tangible.
Tu comprends. Je comprends très, très bien. Et bon, on l'a dit, 2017, c'est ton entrée. On enregistre le podcast aujourd'hui, le 2 février 2023. Il s'en est passé des choses entre-temps. Et essayons de regarder un petit peu cet échéancier. Donc, en 2020, juste avant la COVID, quelques semaines avant la COVID, au mois de février, tu obtiens le poste de vice-président finance du groupe. Félicitations. J'imagine qu'à ce moment, la planification que tu fais de tes projets pour l'année qui arrive, ça l'a rapidement changé tout ça.
Ouais, je pense que tout a pris le bord. Medicom a toujours été une compagnie profitable, puis on avait tout le temps dans notre ADN la croissance. Puis la croissance normale, entre guillemets, a son lot de défis, notamment pour quelqu'un en finance, avec avoir le fonds de roulement disponible pour soutenir la croissance. Puis je pense que nous affrontions ces défis-là très bien. Puis avant la pandémie, j'étais surtout dans un rôle qu'on peut dire corporatif, donc surtout un rôle de pilotage, de contrôle, de contribuer aux orientations stratégiques. Ceci étant dit, je m'occupais aussi en direct des fonctions finances en Amérique du Nord et en Europe, donc j'avais aussi un bon niveau d'engagement au niveau terrain, puis avec les gens terrain. Puis ensuite, bon, ben, comme vous avez dit, la pandémie a tout bousculé. On a rapidement reconnu qu'on avait besoin de support supplémentaire pour livrer notre mission, qui est de protéger les soignants. Et on a ramené des gens qui étaient familiers avec Medicom pour nous aider. Pour moi, personnellement, mon rôle a beaucoup évolué. J'ai bien aimé être sur le terrain avec les équipes et voir le résultat concret des actions qu'on posait.
Donc, j'aimerais parler un petit peu maintenant, Corey, de la COVID avec toi, parce que je l'ai mentionné en introduction, vous avez été un joueur important pour le Québec, pour sauver le Québec même. Peux-tu nous ramener un peu au premier jour, mars 2020, au milieu de mars 2020, fin mars 2020, comment ça se déroule chez Medicom? Comment vous diagnostiquez la situation?
Ouais, ben je m'en souviens quasiment comme si c'était hier. Puis je pense que c'est des moments qu'on va tous un peu se rappeler, ce qu'on était quand que le premier ministre Legault a mis le Québec sur pause. Au Québec, on se rappelle la date au Québec puis partout dans le monde, on se rappelle la date du 11 mars, quand l'OMS a déclaré la COVID-19 comme une pandémie. Puis justement, le vendredi 13, lorsque M. Legault a mis le Québec sur pause, dans le temps, on pensait à un spring break prolongé de quelques semaines, mais je pense qu'on se trompe un peu. Chez Medicom, on a vu la COVID se dessiner un peu avant ça. Pour nous, ça a commencé en décembre 2019, dans le pays le plus populeux de la planète, en Chine, où nous avons des usines puis des bureaux. Ça a commencé en Chine, ça a transféré ou s'est passé en Europe fin janvier, février 2020. Et j'étais justement sur notre site de production en Angers, en France, pour supporter nos efforts quand le Québec a été mis sur pause. Petit à petit, pour nous, les dominos se sont mis à tomber. Nos usines sont réquisitionnées en Chine, les frontières internationales se refermaient, chacun était pour soi. En France, la pandémie m'a aussi permis d'enrichir mon vocabulaire. J'ai appris que notre usine était sous saisine. C'est pas une saisie, mais presque. Donc, quand il y a un ennemi invisible comme ça, comme la COVID, qui se transmet par voie aérienne, les premières lignes de défense, c'est les masques et les N95. Donc, c'est crucial pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques, etc. Mais aussi pour les soignants, les infirmières, les médecins, puis les préposés qui prennent soin de nous. Il faut aussi dire que Medicom n'en est pas à sa première pandémie ou épidémie. La compagnie a été fondée en 88, comme on a mentionné précédemment, mais a aussi connu le VIH, l'Ebola, le H1N1, j'en parle sûrement. Mais les gouvernements ont malheureusement la mémoire un peu courte. Il n'y avait aucune réserve stratégique de pays, ni au Canada, ni ailleurs. C'est là vraiment que Medicom a levé sa main puis a proposé de bâtir la première usine de masques au Québec et N95 au Canada. Ce qu'on a vu avec les équipes, c'était incroyable. Tout le monde était en virtuel, mais le sens de devoir de chacun était palpable. On ramenait tout le temps tout à notre mission ou notre tagline qui est fier de protéger. Puis en 3 mois seulement, on a reconverti un ancien entrepôt à Ville-Saint-Laurent. On a fait venir de la machinerie par avion, puis on a recruté et formé des employés pour faire rouler l'usine. Donc, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, dans cette usine-là, nous avons une capacité de production de plus d'1 million de masques et N95 par jour. Puis on approvisionne le Québec et le Canada avec des produits locaux, durables et fiables. Côté personnel, pour moi, c'était un peu fou. Comme j'ai dit, j'étais en France quand que le gouvernement Legault a mis le Québec sur pause. J'ai pu prendre un des derniers vols pour Montréal. Dans ce temps-là, ma femme était 8 mois enceinte. Donc, on a décidé que c'était mieux que je fasse une quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Donc, c'est un peu bizarre de passer 2 semaines à l'hôtel sur René Lévesque dans ta propre ville.
Oh wow! Donc, une expérience complexe au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. J'aimerais parler un petit peu peut-être, te mentionner vos opérations. Vous avez ouvert des usines à profusion là, pour gérer la demande pendant la COVID. Comment quelqu'un en charge des finances arrive à naviguer à travers tous ces rebondissements? Est-ce que à chaque semaine, on devait planifier, on devait se faire un nouveau plan parce que là, la demande devait grandir constamment là?
Ouais, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les plans qu'on s'était fait s'avéraient souvent faux. On est passé d'une gestion que je qualifierais de traditionnelle, la croissance, à la gestion de l'hypercroissance ou de la croissance exceptionnelle. comme j'ai mentionné, on était tout le temps en croissance, mais une croissance que je qualifierais de plus traditionnelle, encore une fois, ou gérable. Puis là, ça a passé à un autre niveau. Je me répète un peu, mais on gardait en tête notre mission qui est fière de protéger. Et on posait des gestes qui allaient pouvoir protéger le plus de gens possible. Vous pouvez imaginer le genre d'opportunités d'affaires qu'on avait dans le temps. Je suis très fier du fait qu'on tu sais, on vendait pas aux plus offrants. On a gardé nos clients historiques. Ça, en gros, comme j'ai mentionné, c'est les canaux de distribution où les EPI se rendent aux travailleurs de première ligne. C'est drôle comment tout a changé. C'est avant la pandémie, on achetait une ou deux machines, on regardait ça un peu comme ça, puis soudainement, on déconstruit des usines entières en 3-4 mois, un peu partout dans le monde. On a bâti une usine à Montréal, au UK, à Singapour. On a déménagé aux États-Unis. Donc, on passe de une ou deux machines à bâtir des usines au complet. C'est très différent. Chez Medicom, on a toujours reconnu l'importance du capital humain, mais en mode hyper croissance, c'est encore plus important. Donc, on a renfloué notre capital humain en allant chercher des gens qui ont des expertises qu'on n'avait pas avant. Puis le tout un peu sur fond de climat géopolitique qui était changeant de jour en jour, des fois d'heure en heure, quand on parle des restrictions sanitaires qui impactent beaucoup nos travailleurs en usine, puis même nos travailleurs dans les bureaux. Les fermetures de frontières, les droits de douane qui changeaient, les règlements qui changeaient. Donc, c'était vraiment une gestion qui était très complexe.
Wow. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Puis, avec un peu de recul, c'est quoi qui vous a rendu le plus fier de votre épisode COVID, de comment vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a un épisode? Est-ce qu'il y a une situation particulière? Est-ce que c'est un ensemble de choses? Je serais curieux de t'entendre sur le sujet.
Ouais, pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir encore une fois vécu le fier de protéger. Ça a vraiment, pour beaucoup de gens au sein de l'entreprise, mis du concret derrière cette mantra de fier de protéger, puis voir comment on a pu répondre à la crise. Comme j'ai mentionné pendant la question précédente, on n'a pas pris de nouveaux clients commerciaux, mais on est allé, tous les EPI qu'on avait, on les distribuait dans les canaux où ça se rendait aux travailleurs de première ligne. Donc ça m'a rendu très fier. Puis aussi le fait qu'on a pu répondre aux besoins de nos gouvernements, où ce qu'on est implanté partout dans le monde, donc ici au Québec, puis au Canada, mais aussi en France, puis en Asie. Donc c'est assez impressionnant ce qu'on a fait. Puis pouvoir passer d'une feuille blanche à une usine fonctionnelle en 3 mois, C'est
exceptionnel.
Impressionnant à mon sens. Puis,
ouais. Et bon, donc ça, c'est l'épisode COVID. Tu nous as parlé également qu'il y a eu beaucoup de capital humain qui s'est intégré. Et ce qui est excessivement fascinant, si on fait des recherches sur Medicom, c'est que près de 80%, je pense, et corrige-moi si le chiffre a peut-être changé depuis, 80% de vos collègues sont issus de la diversité. Donc, j'imagine, qu'au-delà de tout ce que vous avez fait pendant le COVID, ça doit vous rendre fier, tout ça, là, d'avoir des gens, d'avoir autant de collègues qui sont issus de milieux différents?
Oui, c'est une source de fierté. On le dit souvent à l'interne, on est une mini Nations Unies chez Medicom. Par contre, c'est pas quelque chose sur laquelle on a mis un emphase particulier. C'est de même depuis 35 ans, depuis la fondation de chez Medicom. Chaque personne dans son unicité, si je peux dire, à sa manière, a contribué puis faire grandir l'entreprise. Si je regarde ma propre équipe d'environ une vingtaine de personnes, est constituée à 80% de femmes talentueuses. Donc, on est fiers de tout ça.
Et bon, on a parlé, vous avez amené du capital humain dans l'organisation. On a parlé également du volet diversité. Parlons également maintenant un petit peu du volet croissance. Vous avez vécu une croissance, une hyper-croissance pendant la COVID pour des raisons évidentes. Vous étiez bien positionné avant la COVID pour répondre à ce besoin-là. Mais là, je pense que la croissance continue à s'accentuer un petit peu. Es-tu capable de peut-être nous expliquer quels sont les objectifs de l'organisation pour les prochains mois, pour les prochaines années? Vous avez ouvert beaucoup d'usines. Est-ce que vous voulez en ouvrir encore? Est-ce que vous voulez peut-être même aller attaquer d'autres marchés géographiques? Je serais curieux de t'entendre ici.
On est encore en pleine croissance, puis on est en phase de construction de 3 nouvelles usines au Canada et en France. Donc, okay. La première à Saint-Eustache, ouais, pour produire la matière filtrante des masques puis des N95. Ben, c'est beau d'avoir une usine de masques, mais ça prend aussi de la matière première. Donc, en fabriquant la matière première, on contrôle l'innovation qu'on peut faire dans les procédés. Ensuite, on est en pleine construction d'usines de gants de nitrile en France. Donc, c'est très rare, de voir des usines de gants dans des pays développés, si on peut dire. Puis, on fabrique une autre usine de gants en Ontario, donc qui sera la seule au Canada. Parce que les gants, j'ai mentionné les masques, les N95, mais les gants, c'est aussi une clé pour se protéger des infections. Puis avec les usines de gants en France puis au Canada, notre ambition, c'est de faire des gants de qualité avec un impact environnemental réduit puis dans le plus grand respect des normes du travail.
Et bon, donc on voit que vous n'arrêtez pas. Vous continuez à ouvrir des usines un petit peu partout. Au final, avec un peu de recul à travers tout ça, à travers cette croissance, cette main-d'œuvre qui a grandi de manière significative de votre côté, comment vous voyez l'avenir, les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Est-ce que vous avez pris un petit peu de temps, le groupe au complet, pour regarder stratégiquement comment vous étiez positionné, comment vous planifiez l'avenir, comment vous planifiez le futur?
Oui, ben justement, un des investissements en capital humain qu'on a fait pendant la pandémie, c'était par rapport à, on appelle le leadership group chez Medicom. Donc, c'est des gens avec des expériences pertinentes, des expériences qui sont riches, qui connaissent très bien Medicom, puis qui sont capables d'établir les orientations stratégiques du groupe. Une des ambitions qu'on s'est données, c'est de contrôler notre destinée, donc bâtir de la résilience dans nos opérations, puis de continuer de contribuer à protéger le monde comme qu'on le fait depuis maintenant 3 décennies. Mais en même temps, on doit réfléchir puis agir dans un monde qui est de plus en plus incertain du plan géopolitique, économique, et énergétique. Donc, on s'est bien positionné durant la COVID, puis on a continué de fournir nos clients existants. Justement, on n'a pas joué au jeu du plus offrant, puis on était fidèles à notre mission. On sait malheureusement qu'il y aura d'autres crises sanitaires, mais dit comme on a connu d'autres par le passé, puis je pense que si on lit un peu partout, on voit qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir. Puis je pense qu'on est mieux outillés que jamais pour affronter les prochaines épidémies ou pandémies, puis aider nos partenaires gouvernementaux et commerciaux dans le futur. La résilience qu'on construit en ce moment avec notre usine à Saint-Eustache, puis les usines de gants en France, puis au Canada, vont nous permettre d'accomplir nos missions.
Fantastique. Corey, j'aimerais ça peut-être terminer sur des petites questions personnelles. Tu as vécu des réalités d'affaires assez énormes, on pourrait dire ça comme ça, dans les derniers temps. Est-ce que pour te garder à l'affût des meilleures décisions que tu devrais prendre, tu t'éduques un peu en faisant des lectures, en lisant des articles précis? À quoi ça ressemble un petit peu de ton côté, peut-être, les lectures que tu peux faire?
Ben la lecture, pour moi, c'est un peu un échappatoire. Donc, c'est rare, comme le soir ou les fins de semaine, je lis plus des romans, de la fiction ou non-fiction, mais plus des romans. Je dirais que je suis quand même un grand lecteur. Là. Je suis en train de terminer une série de 6 livres d'un auteur norvégien qui s'appelle Karl Ove Knausgård. Je sais pas si vous connaissez.
Wow, je connais pas, mais je vais aller faire une petite recherche.
Non, je pense que la traduction, c'est mon histoire, puis c'est autobiographique. C'est sur 6 livres, donc chaque livre parle d'une tranche de sa vie. C'est hyper riche. Ça prend des détours partout, c'est un peu proustien, je peux dire. Donc, ouais, la lecture, c'est plus un échappatoire pour moi, puis non pour approfondir mes connaissances quoi que ce soit.
Je comprends très bien. Podcast, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu en écoutes et est-ce que ce serait un échappatoire?
Ouais, ben le seul que je dirais que j'écoute régulièrement, c'est Dis-moi ce que tu lis, drôlement, de Karine Lefebvre à Radio-Canada. Donc, plonger dans l'univers un peu des lecteurs, voir qui ou quoi les ont marqués, ça m'inspire pour mes lectures futures, justement.
Fantastique. Et dis-moi, bon, une personne occupée comme toi qui est, bon, tu le dis, nouvellement père de famille depuis à peu près un an ou deux ans de ça, je ne sais pas si c'était ton premier, mais j'imagine que ça a dû changer un petit peu ton horaire, tes routines. À quoi ça ressemble, la routine, avant, pendant et après le travail de Corey Penno?
Ouais, ben, mettons, avant la pandémie, j'avais un enfant, maintenant j'en ai trois.
Okay.
Donc, passer de un à trois. Donc, ouais, père de famille avec trois enfants en bas de 4 ans ou 4 ans et moins, c'est un peu intense, mais c'est important pour moi d'être présent pour eux puis d'être là. Donc, pour moi, c'est le matin que j'aime passer avec eux. Donc, tu sais, les faire déjeuner, prendre le temps de les préparer, les amener à la garderie. Puis, avant les enfants, j'étais un gars qui commençait à travailler très tôt. Maintenant, je commence plus vers 9 heures, mais j'ai vraiment pris 2-3 heures présent avec mes enfants, puis ensuite je peux me consacrer au travail après. Donc ouais, le matin c'est surtout avec les enfants, le jour ben le travail, puis le soir ben la petite routine normale, manger, dodo, puis au besoin commencer à travailler. Mais ouais, je pense que quand on a trois enfants en bas âge, on peut pas mentir et dire qu'on a trop de temps pour soi.
Non, j'imagine. Corey Penno, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Si on va en parler un petit peu plus sur Medicom, peut-être au niveau des postes que vous ouvrez ou des nouveaux projets, des nouveaux produits, c'est où l'endroit le plus simple pour vous retrouver?
Oui, Medicom.ca, c'est notre site web. Il y a une belle section carrière. On est en plein recrutement pour plusieurs postes. Comme j'ai dit aussi, on a une nouvelle usine en construction à Saint-Eustache qui aura besoin. On a plusieurs postes clés à pourvoir. Donc, medicom.ca pour en apprendre plus sur nos produits, puis section carrière pour les emplois.
Fantastique. Corey, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec notre audience aujourd'hui. Ça a été très apprécié de voir un leader québécois qui est monté au front pendant la COVID et qui a aidé la majeure partie de la population, l'entièreté de la population même. Merci énormément pour ce que vous avez fait et merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.